Turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 5 and verse 8.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'Évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 8. L'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 8. Simon-Pierre, ayant vu cela, cette grande pêche de poissons, il se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et notre sujet ce soir, c'est une conversion par étapes. Une conversion par étapes. Ce n'est pas un titre qui est correct de manière stricte, parce que la conversion n'est jamais par étapes. C'est quelque chose de soudain, un événement soudain, mais pour en arriver au moment où nous confions réellement en Christ, en dépendant de lui pour le salut, d'en arriver au point où consciemment nous le connaissons, nous le trouvons, ceci peut prendre un certain temps. Pour certaines personnes, c'est très soudain. Entre le moment où ils entendent le message de l'Évangile pour la première fois, ils peuvent être convaincus de péché. Et tout le processus, si vous voulez, de la conversion peut être très rapide. Il peut y avoir une transformation extraordinaire et ils crient à Christ pour le salut et leur cœur est transformé. Ils sont différents, ils marchent avec Dieu, ils le connaissent. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui se passe et qui prend un certain temps. Peut-être un temps court, mais il y a des étapes. Et c'est intéressant pour nous que de considérer l'expérience de Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, parce que les preuves dans le Nouveau Testament sont là. Il est venu au Seigneur par étapes, graduellement. Son esprit a été ouvert, étape par étape, et non pas immédiatement. La première fois qu'il a rencontré Christ, ceci nous est rappelé dans le début de l'évangile de Jean, où André, son frère, était un disciple de Jean. Et il y a eu ce grand jour où Jean a vu Christ, où il savait qui il était, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Jean était le dernier des prophètes, et il a crié en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. » Et André était l'un des deux disciples qui a suivi le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Et peu de temps après, il était si convaincu qu'il était le Messie qu'il est allé vers Pierre, qu'il a ramené son frère Pierre et l'a amené à Jésus. Et lui est venu et il semble qu'il était convaincu également qu'il était le Messie. C'était difficile pour ses disciples parce que à cause du clergé de l'Église juive de l'époque, ils avaient une idée erronée. Et ceci n'était pas conforme au livre de l'Ancien Testament, mais il pensait que quand le Messie allait venir, il allait être un Messie politique, quelqu'un qui allait les délivrer de l'occupation romaine. Et en fait, c'était là leur enseignement que toute la nation était messianique et que le Messie ne serait pas forcément un individu, mais toute la nation d'Israël, que l'une ou deux personnes aller conduire la nation pour qu'elle soit à nouveau une grande nation. Et ainsi, il s'attendait à un grand changement social, une délivrance de la nation, une réforme morale, oui, mais la prospérité en particulier, un changement social. Ainsi, quand ce Jésus de Nazareth a été mis en avant par Jean-Baptiste, qui a dit qu'il était le Messie, ainsi, ceci n'était pas si évident parce qu'il était habillé comme un homme pauvre, de manière modeste, il était doux, il n'était pas une personne qui était extravagante, un grand leader pour ces temps-là, d'une manière extérieure. Et ils n'ont pas compris qu'il était, oui, le Fils de Dieu, mais qui était là dans une mission spirituelle, qui n'allait pas amener une réforme sociale uniquement, qui n'allait pas amener la délivrance de la nation, et l'établir comme une puissance à nouveau, une puissance mondiale. mais il allait faire une œuvre de rédemption. Ceci était promis dans tout l'Ancien Testament qu'il serait celui qui allait venir et accomplir le message illustré par les sacrifices de l'Ancien Testament. Il allait faire quelque chose d'extraordinaire pour ôter le péché. Certains prophètes de l'Ancien Testament avaient une connaissance, une compréhension extraordinaire de ce que le Messie allait faire. Il allait mourir à la place des pécheurs, dit Ésaïe. Et cependant, il ne s'attendait pas à cela à l'époque. C'était là l'enseignement qui prévalait dans l'Église juive au temps de Christ. Ainsi, les disciples s'attendaient à un grand leader politique. Et Jean a pointé le doigt vers Christ. Il y a beaucoup de choses concernant le Sauveur du monde, même dans ses premiers jours, qui les ont impressionnés. Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui était comme Jésus-Christ. Il était parfait, il était saint, il n'a jamais perdu le contrôle de lui-même, il ne s'est jamais mis en colère, il n'a jamais dit quelque chose qui était mauvais, quelque chose qui était faux, il n'a jamais rien fait de mal. Il était si profond dans son enseignement, dans son comportement, et très rapidement, il témoignait de ces miracles extraordinaires. Les noces de Cana et combien le Seigneur a pourvu là-bas. Et tant de miracles, de gens qui étaient malades, de maladies terribles. Et il voyait que le Seigneur était plein de compassion, de calme. Et il y avait tant de choses qui semblaient leur montrer qu'il était le Messie. Dès le début, et au moins un grand prophète qui faisait des miracles extraordinaires, envoyé de Dieu. Mais quelqu'un qui est si différent de tous les autres, avec cette autorité naturelle, avec cette sagesse pour lire leurs pensées également, ils ont réalisé rapidement qu'il était Dieu. Et cependant, malgré le fait qu'ils étaient conscients de cela, en soi, ceci ne les a pas encore amenés au salut, à comprendre réellement, entièrement ce que le Seigneur faisait. Et nous allons considérer rapidement certaines étapes dans leur expérience, dans l'expérience de Simon-Pierre. Et ici, nous voyons cette grande pêche de poissons. Ils le connaissaient, ils étaient déjà devenus des disciples à temps partiel, et au moins 5 ou 6 d'entre eux, la plupart étaient pêcheurs. Et ils sont retournés à la pêche, et ils sont venus à ces rassemblements, ils ont vu ces miracles, ils l'ont entendu prêcher, mais ils n'étaient pas des disciples à plein temps. Ils ont été invités, mais ils ne l'ont pas servi. Ils sont retournés à leur pêche, à leur travail. Et ainsi, ici, assez au début de l'histoire de l'Évangile, Simon-Pierre a déjà rencontré Christ. Il a été profondément impressionné et convaincu qu'il devait être le Messie. Il était l'un de ces pêcheurs à qui le Seigneur a demandé d'utiliser la barque, de la mettre un peu plus loin du rivage pour que Christ puisse prêcher à cette grande foule qui était rassemblée sur le rivage. Et c'est là ce qu'il a fait, et à la fin, même si Simon-Pierre et ceux qui l'accompagnaient avaient pêché toute la nuit et ils étaient expérimentés, ils connaissaient bien toutes les conditions, ils savaient qu'il n'y avait pas de poissons à attraper, ils connaissaient bien ces eaux du lac de Galilée. Mais Christ leur a demandé de jeter les filets et en hésitant, ces pêcheurs expérimentés ont dit « Maître, à ta parole !» Mais il était plein de doutes. « À ta parole, je jetterai le filet. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attrapé tant de poissons qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de semblable. Et à la fin, 2 barques ont commencé à couler tellement elles étaient pleines de poissons. Ceci était si évident que c'était un miracle de Dieu, que Christ est Dieu, que cet homme qui peut donner ce commandement et faire un tel miracle, une telle pêche miraculeuse. Et la réaction de Pierre est celle-ci. Il dit « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est là la première étape. Soudainement, Pierre réalise qui est Dieu. Ce sens de qui est Dieu qu'il n'a jamais eu auparavant. Un sens profond de qui est Dieu. Savez-vous, vous pouvez parler de Christ aux gens, vous pouvez expliquer l'Évangile, est le chemin du salut, vous pouvez avoir les discussions les plus intéressantes. Et cette discussion continue d'ici et là, et ils peuvent dire « Mais qu'en est-il de ceci ?» Vous essayez de répondre aux questions « Et qu'en est-il de ceci ?» Et cette question et celle-ci, et tous ces doutes, et vous essayez d'expliquer « Mais c'est une discussion intellectuelle. » Ce n'est pas quelque chose qui touche le cœur. La personne qui pose des questions ou qui essaye peut-être de se barricader contre votre conversation, contre votre témoignage pour Dieu, est entièrement dans la théorie, n'a pas ce sens de qui est Dieu. Et de même pour Pierre à l'époque, il était intéressé par ce message du Messie. Oh, il pourrait être celui qui va nous délivrer, qui va nous réformer, qui va réformer notre nation. Il était également intéressé par cette réforme morale, mais il n'avait pas ce sens de qui est Dieu. Et même si Christ était unique, remarquable, et il a déjà expérimenté tous ces miracles, il n'avait pas réalisé, et c'est là la première étape de la conversion authentique, ce sens de qui est Dieu que vous n'avez jamais ressenti auparavant, c'est soudain. Ce n'est pas une discussion théorique, mais soudainement c'est quelque chose de sérieux, d'important. C'est là ma destinée éternelle, c'est le Dieu devant qui je vais devoir rendre compte. Dieu est là, le Dieu qui est là. Et je réalise tout d'un coup, et il y a une nouvelle atmosphère autour de toute discussion, toute question, toute réponse, et ceci est donné par Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Pierre, l'apôtre, plus tard, réalise ceci ici et il se jette aux pieds de Jésus. Il est plein de crainte et il dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne. » Oh, il n'a pas confessé son péché. Il n'a pas dit « Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, si tu pouvais voir dans mes pensées, si tu pouvais voir mes désirs intérieurs, si tu connaissais mes convoitises. » Non, il ne pense pas dans les détails d'une manière tangible. Il sait que Dieu est présent et que ceci est quelque chose de sérieux, qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas digne. C'est là la première chose, ce sens de qui est Dieu. Que vous puissiez avoir ce sens de qui est Dieu. Et si vous n'avez jamais eu ce sens de qui est Dieu, de sa réalité, priez-le pour qu'il puisse vous donner ce sens de qui il est et il va entendre votre prière. C'est là ce dont nous avons besoin. Je me rappelle d'avoir parlé de Christ à des personnes, mais c'est là ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui écoute réellement. Dieu est à l'œuvre, il y a ce sens de la réalité de Dieu. Ainsi, Pierre a reçu ceci. C'est la première étape importante de la conversion, cette œuvre secrète de Dieu. Maintenant, il réalise que Christ est de Dieu, qu'il est parfait, qu'il est saint, et que lui, Pierre, est plein de péchés, qu'il a besoin du pardon, de la miséricorde de Dieu, de son aide. Mais il n'est pas encore arrivé à ce point-là. Il n'y a pas encore de signe de sa repentance. Il n'y a pas de signe du fait qu'il ait trouvé le Seigneur, qu'il ait découvert, qu'il ait sa vie transformée. Et ainsi je continue avec une autre découverte. Et ceci, c'est dans Matthieu 14. Et je vais lire plusieurs textes dans les évangiles parce que je vais suivre l'ordre chronologique. Et dans Matthieu 14, au verset 26, nous lisons ceci. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Le Seigneur avait nourri peu de temps auparavant les 5000 personnes, c'est-à-dire les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Peut-être qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient présentes. Mais le récit dit 5000 hommes. Ainsi, les disciples ont été impliqués dans ce miracle. Ils ont été impliqués pour distribuer les pains et les poissons qui ont été miraculeusement multipliés par Christ. Ainsi, ils ont vu de près sa toute-puissance. Et ensuite, Christ envoie les disciples sur le lac de Galilée, alors que lui, il renvoie la foule. et qu'ils montent sur une montagne pour prier. Ils étaient là, sur le lac, et la mer est devenue turbulente, et il y avait de la tempête, et ils l'ont vu, lui, marcher sur les eaux, et leur réaction c'était « c'est un fantôme, c'est un esprit, ça ne peut pas être le Seigneur, peut-être qu'il a été tué ». Ils avaient toutes sortes d'idées superstitieuses à l'époque, que les esprits pouvaient apparaître, mais ils ne se confiaient pas en lui suffisamment, même s'ils ont entendu son enseignement, qu'ils ont vu ses miracles, qu'ils savaient, qu'ils disaient qu'il était le sauveur du monde, le Messie, mais ne se sont pas confiés en lui suffisamment pour savoir que c'était le Seigneur qui marchait sur les eaux. Ainsi, ils n'avaient pas encore la foi. Ceci a pris un certain temps. Et au verset 27, « Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. » Et Pierre a fait quelque chose de remarquable, d'extraordinaire. Pierre répondant lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Il avait cette foi pour marcher sur les eaux. Il avait suffisamment de foi pour cela. Mais dès qu'il a réalisé que c'était le Seigneur, il avait suffisamment de foi pour l'invoquer, pour l'interpeller, pour qu'il lui permette de marcher sur les eaux. Et c'est là ce qu'il a fait. Mais quand il a vu le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi ». Il avait suffisamment de foi pour marcher un petit peu, quelques pas, mais pas suffisamment pour le soutenir. Quand il a réalisé les conditions météorologiques et les vagues, il n'avait pas suffisamment de foi pour continuer, mais uniquement pour commencer. Et en commençant à s'enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit sa main et le prit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Et vous pouvez voir qu'il n'avait pas la foi, cette confiance en lui. Et de même pour nous, comme Pierre, nous suivons le Seigneur peut-être. Nous l'adorons régulièrement, nous écoutons la parole, nous prions pour le salut, nous nous repentons peut-être de notre propre manière, de nos péchés, et nous espérons qu'il y aura cette preuve de notre vie que Dieu nous a rencontrés, nous a transformés, et nous disons, je me confie en Christ, mais il y a une faiblesse dans notre confiance. Elle n'est pas entière, parce que nous disons, je crois que je me confie en Christ, mais je ne suis pas convaincue qu'il va m'entendre, qu'il va entendre mon cri. Voyez-vous, nous ne nous confions pas entièrement dans son intégrité, dans sa puissance. Il a promis de sauver tous ceux qui viennent à lui sincèrement de tout leur cœur. Et il en a la puissance pour sauver quiconque, même les pires. Ainsi, nous nous confions en lui d'une certaine manière, mais pas suffisamment, pour enlever nos doutes et nous pensons qu'il ne va pas nous écouter, qu'il ne va pas garder sa promesse. Et ensuite, il y a d'autres choses qui vont venir à notre esprit. Nous nous confions en lui, mais nous réalisons que peut-être si nous venons à lui, peut-être s'il me transforme, que je suis un vrai chrétien, alors beaucoup de gens me rejetteront et je vais être méprisé de beaucoup de personnes. Il y aura ceux qui vont commencer à se moquer de moi, à me ridiculiser. Je n'ai pas suffisamment de confiance en Christ pour croire que la vie chrétienne est si bonne que peu importe les moqueries, ceci n'est rien. Oh, que de devenir un enfant de Dieu, que ma vie soit transformée, je reçois ce cœur nouveau, cette vie nouvelle, je suis sur le chemin vers le ciel et j'ai ses réponses à mes prières et je marche avec lui, je le découvre, je l'aime et je l'expérimente jour après jour. Et j'ai peur des moqueries. Et je réfléchis un peu et je me dis, oh, il y a un autre problème. Je me confie en Christ d'une certaine manière, Mais si je me confie en lui entièrement, alors je ne serai pas libre de continuer avec mes péchés favoris. Je vais devoir les laisser de côté. Par sa force, par son aide, il va m'aider en cela. Mais je ne suis pas prêt à abandonner mes ambitions si chères, mes rêves, mes idées pleines de péchés, mes pensées. Et il y a quelque chose d'autre qui peut-être me met en souci. Je me confie en lui, oui, mais je suis entourée de gens si intelligents, si brillants, si capables, qui ne croient pas en Dieu et qui pensent que ceci est ridicule et qui se moquent de la foi et qui pensent que la seule manière de vivre, c'est de vivre entièrement pour ce monde, pour notre bonheur terrestre, pour nos plaisirs, pour le monde. Oh, c'est impossible qu'ils soient tous dans l'erreur. Ce sont des gens brillants et intelligents. Et vous êtes en souci à cause de cela. Tant de gens semblent si capables. Ils ont tant de dons, mais ils sont contre Christ, contre Dieu. Et ceci vous retient. C'est comme si vous vous confiez en lui, mais il y a tous ces doutes qui vous font vous retirer. Et Pierre était dans cette position-là. Il avait suffisamment de foi pour marcher sur les eaux, mais pas suffisamment pour faire face aux vagues et aux craintes et aux doutes. Et souvent, quand nous cherchons le Seigneur, nous avons une certaine foi, mais pas suffisamment pour faire face à ces idées contraires. Et nous devons apprendre la nécessité de nous confier en lui entièrement, de l'avoir lui, c'est tout. Ce dont nous avons besoin, il va garder toutes ses promesses, il peut transformer le pécheur, le pire. Et nous devons nous confier en lui et croire en lui et lui donner toute notre confiance et reposer nos âmes sur lui. Peut-être vous avez besoin de faire ceci encore, quelque chose d'autre, le temps passe, mais j'en arrive à Jean chapitre 6, pour l'étape d'après dans la vie de Pierre, et ceci est important pour nous, c'est dans Jean chapitre 6, verset 66. L'un de ces longs chapitres. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est là la grande prédication de Christ qui est souvent appelée la prédication difficile. Parce que Christ savait bien sûr que parmi les milliers de personnes qui le suivaient, il y avait beaucoup de gens, peut-être la majorité des gens, peut-être la grande majorité des gens, qui ne croyaient pas sincèrement en lui. Parce qu'ils le suivaient pour ses miracles, ils le suivaient pour les signes et les merveilles, ils le suivaient parce que des membres de leur famille avaient été guéris, même eux-mêmes, avaient ramené des gens qui avaient des maladies terribles, ils étaient guéris d'une manière merveilleuse. Ils le suivaient pour le spectacle. Beaucoup le suivaient, oui, parce que c'était un homme qui pouvait faire toutes ces choses. Alors, il sera très certainement celui qui va nous délivrer politiquement. Et le suivaient pour les mauvaises raisons. Ils ne voulaient pas écouter son message de repentance, se repentir de son péché, se confier en Dieu, lui demander la vie. Et cette repentance, la rémission des péchés, et ceci, il ne l'aimait pas, il ne voulait pas cela. Ainsi, il y a eu cette prédication difficile quand Christ leur dit en détail qu'ils sont perdus s'ils continuent ainsi et que leur destinée spirituelle est terrible. Au verset 64, « Mais il y en a parmi vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement » qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Mais voici le point important. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Ils savaient bien quelle serait leur réponse. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Ceci est une déclaration extraordinaire. Mais il y a quelque chose d'important. Jésus ne recommande pas ce qu'il dit, n'acquiesce pas de ce qu'il dit. Il ne lui dit pas que ce qu'il a dit était quelque chose de juste, parce qu'il a dit quelque chose qui était juste, mais pas de tout son cœur, pas profondément. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est comme nous, chers amis, quand notre foi grandit, quand nous entendons les nouvelles, que nous regardons la télévision, nous voyons toutes les guerres dans le monde, et cette semaine même, toutes ces nouvelles guerres, ces problèmes, cette confusion dans le monde, ces menaces qui peut-être n'étaient pas là il y a quelques semaines. Comment est-ce que le monde fait face à tout cela sur la scène internationale, d'un événement à un autre, avec tant de guerres, d'instabilité, de problèmes? La race humaine est pleine de choses terribles. Et vous commencez à vous dire, Christ est la seule réponse. L'enseignement de la dépravation de l'homme est juste. L'homme ne va jamais être quelqu'un qui est sans péché. Il est perdu sans Dieu, il ne peut pas se transformer lui-même. Nous sommes perdus si nous n'avons pas le salut de Dieu. Et ce qui est important, c'est d'aller sur le chemin du ciel, d'être sauvé, d'être transformé par lui. Et vous êtes convaincus, mais vous n'êtes pas encore arrivé parce que vous ne croyez pas profondément. Et c'est là le seul espoir. Vous avez besoin du salut, vous devez vous confier en lui entièrement, vous donner à lui. Ainsi, vous devez comprendre qu'il est la seule source de lumière et de vie, qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde sans Christ. C'est un monde qui est condamné, et Dieu rassemble les âmes hors du monde pour son royaume éternel, de génération en génération. Et la chose importante, c'est de voir le salut des âmes perdues. Et le Seigneur ne recommande pas sa profession de foi, pas encore. Et dans Matthieu 15, il y a peu de temps qui reste, mais Matthieu 15, ceci est une aide pour nous. Au verset 15, et je vais lire ce verset. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Quelle parabole ? C'est dans les versets précédents. Et nous lisons ceci au verset 10. Et ayant appelé le peuple, il leur dit, « Écoutez et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Ceci suffit, cette déclaration courte, ce n'est pas ce que vous mangez. Il y avait toutes ces règles concernant la nourriture, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous souille moralement. Peut-être que ceci va vous souiller chimiquement peut-être, et va vous rendre malade. Mais c'est ce qui sort de vous, ce qui est dans le cœur, c'est là votre souillure, votre péché, et vous ne pouvez rien faire contre cela. À l'exception de la repentance, vous devez vous repentir et être transformé par la puissance de Dieu. Et Pierre n'a pas compris ceci. Il réfléchissait encore en termes de péché, dans le sens de vos actes, ce que vous faites, ce que vous dites, oui, mais également en termes de ce que vous aimez dans votre cœur, votre état, ce que vous avez dans votre cœur, votre état, votre condition. Si quelqu'un est un menteur désespéré, cette personne ment parce qu'il est un menteur dans son cœur. C'est là sa tendance, sa disposition d'esprit. C'est à l'intérieur. Ce sont des péchés du cœur qui doivent être purifiés et pardonnés, et la personne est transformée radicalement. Et Pierre avait besoin de comprendre cela. Mais la chose intéressante par rapport à cela, c'est que Pierre est celui qui pose la question ici. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Oh, il avance de plus en plus. Maintenant, il est quelqu'un qui cherche le Seigneur profondément. Il pose ses questions et il veut désespérément connaître les réponses. Il est ouvert, il est enseignable. Et ceci l'amène à sa découverte. Son problème, c'est le péché du cœur. Mon cœur a besoin d'être transformé entièrement. Et Je voulais vous lire, pour finir, Matthieu 16, c'est le chapitre suivant, et au verset 13. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» L'opinion générale, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre à présent dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Écoutez, ceci est très important. Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon. Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il y est arrivé à présent. Si vous voulez déterminer quand, dans ce processus, Simon-Pierre a été converti personnellement, c'est très probablement là, à ce moment-là, parce que le Seigneur recommande sa profession de foi. Il met toute sa confiance en Christ entièrement, et ceci de tout son cœur. Il est le Fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, il est le Rédempteur spirituel. Il peut délivrer du péché, il peut nous transformer intérieurement dans notre cœur, nous donner une nouvelle nature et faire de nous une nouvelle personne. Nous devons exercer notre foi en lui et nous confier en lui entièrement pour le salut. Parce qu'à partir de ce moment-là, toute l'expérience de Pierre, toutes ces expériences sont des expériences d'assurance. Peu de temps après, c'est la transfiguration. Quand Christ le prend lui et d'autres vers une montagne et il est transfiguré devant eux, et la gloire de Christ leur est révélée, sa divinité. Ils sont sûrs de qui il est, le Sauveur. Il y a d'autres choses que j'aurais pu souligner, qui sont des bénédictions d'assurance. Mais c'est là, dans ce passage, ce moment où il est convaincu que Christ est le Fils de Dieu. Et il était prêt à ce moment-là de nager contre le courant. Il était prêt à confesser sa foi contre tout ce que les autres pensaient, qui pensaient « Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie. » Non, Pierre dit, et il va à ce moment-là contre le courant général. Et ouvertement, il confesse, il n'a pas peur que quelqu'un entende cela. Oh, il aura des hauts et des bas, et il niera le Seigneur de manière terrible. Mais cependant, il est sauvé à ce moment-là. Vous pouvez dire, il est réellement sauvé, il est transformé. Ce sont là les choses dont nous avons besoin. Ce sens de qui est Dieu, une réalisation de l'être, de la puissance, de la sainteté de Dieu. Nous avons besoin de comprendre la nécessité de la foi également. Vous ne pouvez pas simplement suivre le courant, mais vous devez vous confier en Christ, exercer votre foi en lui. Dites-lui que vous croyez en lui, donnez-vous à lui. Vous devez le voir, lui, comme étant votre seul espoir, le salut, la seule source de lumière et de vie. Vous devez le confesser de tout votre cœur. Soyez prêt à vous tenir ferme pour lui, vous confier en lui entièrement, et alors vous serez arrivé. Je suis désolée de présenter ces choses comme des étapes que vous devez franchir, mais ces choses, par la grâce de Dieu, sont faciles pour nous s'il y a une œuvre de salut dans notre cœur. De nous confier en lui, de nous donner à lui et de croire en lui. Et alors nous allons nous repentir de notre péché et ensuite nous allons nous donner à lui. C'est là le chemin. Parfois c'est par étapes, pas toujours soudainement en une seule étape. Mais quand vous serez arrivé à la conversion, vous le saurez et vous allez l'expérimenter et sa puissance et sa bénédiction. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais grâce à chacun d'entre nous, nous te prions. Seigneur, œuvre dans nos cœurs, touche nos cœurs et amène-nous à toi. Approfondis, Seigneur, notre conviction, approfondis notre réalisation de notre besoin de toi, pour que nous puissions réaliser que nous avons besoin d'être transformés entièrement, d'être purifiés, d'être pardonnés, de recevoir cette nouvelle nature. Seigneur, fais ces choses en nous, nous te prions, pour que nous puissions être sincères dans notre repentance et que nous puissions nous confier en toi entièrement de tout notre cœur. Viens Seigneur, sauve-nous et aide-nous. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.